Bonjour les chroniques rebelles aujourd'hui avec du cinéma, de la musique et de la poésie. Trois films en salle de cinéma depuis le 18 juin. Peacock, un film de Bernard Wenger, c'est un entretien avec Bernard Wenger. Kneecap, un film de Rich Pepiat. Un rêve plus long que la nuit, un film de Nicky de Saint-Phal. Un film en DVD, Blu-ray, VOD, Reine-mère, de Manel Labidi. Montant de Yacine le costumé sort aujourd'hui, le 21 juin, et à partir du 25 juin, Once Upon a Time, un film de Tarzan et Arab Nasser, Reflet dans un diamant mort, un film de Hélène Cattet et Bruno Forzani, Au rythme de Vera, un film de Ido Fluck, Stranger Eyes, un film de Yeo Sule-Hua. Enfin, Melek, photo trouvée et gravure de Julie Doucet, texte rassemblé par Benoît Chaput aux éditions Loi de Cravant. Peacock, un film de Bernard Wenger. Au cinéma depuis le 18 juin. C'est un entretien avec Bernard Wenger. Si aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux dans une société du paraître, en particulier dans les sociétés occidentales, mais pas seulement en Occident, le film de Bernard Wenger en fait une étonnante illustration en s'intéressant au phénomène des agences de location d'amis. Mais oui, une location d'amis dans tous les domaines. Pour trouver un appartement, faire impression en société, à l'école, dans des réunions, au travail, pour briguer la présidence d'une association. Évidemment, dans tous les rôles que Mathias, notre homme caméléon, endosse pour son agence My Companion, il excelle autant pour briller en société, faire des discours érudits sur l'art, entrer dans le rôle du fils parfait, coacher une dame timide ou encore discourir sur les courants musicaux après un concert en compagnie d'une dame impressionnée par sa prestation. Le service est cependant coûteux. Réservé à des personnes fortunées d'une classe sociale bourgeoise dont l'envie est de redorer son image familiale, professionnelle, intellectuelle, histoire de se présenter sous le meilleur jour. Eh bien, cela a un prix. Cela ramène immanquablement à l'idée initiale de la réalité, de sa représentation et de sa manipulation, suscitant ainsi de multiples questions sur les comportements sociaux et leur part de construction. Lorsque Mathias explique le rôle de l'agence My Companion et des professionnels qui la composent, il se trouve lui-même dans une position ambiguë. Nous jouons dans la vraie vie. C'est un travail énorme. Il faut garder une limite entre le rôle et soi. Il faut aussi savoir quitter le rôle, ne pas le laisser nous atteindre. Belle tirade, alors qu'il a perdu la notion de ce qui est vrai. Ses repères, et qu'il réagit dans la vie réelle comme s'il était continuellement face à des clients ou des clientes. Auprès de Sophia, sa compagne, il endosse l'habit du mari attentionné dans son luxueux appartement, high-tech et sans caractère. Il est celui qui offre des fleurs et ramène des objets pour épater la galerie. Mais demande-t-elle, qu'est-ce qui t'arrive, Mathias? Tu n'es plus vrai? Il lui joue alors la grande scène du deux. En pleurant, il proteste de sa bonne foi et de son amour. « Sophia, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien pour toi. » Une prestation très mélo, mais le naturel n'y est plus. Jouer sans cesse la comédie pour une clientèle qui est la seule à connaître la vérité est un piège, dont témoigne Wenger. Il a rencontré une personne qui travaille dans ses agences et celle-ci lui a confié ne plus arriver à éprouver de vraies émotions. Le personnage de Mathias s'inspire de cette réalité. Il se ferme toujours avant une mission pour ne pas s'attacher lorsqu'il doit jouer un membre de la famille, un compagnon ou autre. Mais quand il rentre chez lui, il a du mal à s'ouvrir à nouveau. Je trouve cette contradiction passionnante et tragique. Quant au Pan, Peacock, qui a donné son titre au film, Bernard Wenger nous en révèle le symbole dans son film radical et satirique sur la société de l'absurde et de l'apparence, où l'humour noir se mêle à la critique d'un monde convenu et sans réelle empathie. La superficialité devient notre loi à tous et toutes, et la dématérialisation des échanges y contribue bien sûr de façon considérable. Les gens de ma génération, note le réalisateur, ont des rapports de plus en plus artificiels et notre tendance à l'autopromotion, notre vanité et notre désir de reconnaissance peuvent nous pousser à jouer un rôle dans notre vie quotidienne. La fin du film est l'apothéose d'un vernis social qui se fissure et finalement craque. Une conclusion ouverte et magnifique à découvrir. Lors de la rencontre avec Bernard Wenger, il était intéressant de revenir sur le prologue du film, la séquence d'une voiturette de golf brûlant sur le gazon dans un lent zoom avant. La métaphore d'une classe sociale?
We see Matthias the first time in the film and we don't know what is happening here. He is, as we later learn, doing a job where he's working for a client. We never get the whole explanation for this scene, but obviously somebody rented him to portray heroes together. This woman, this female client, runs into the frame together with him and they're putting out the fire of the burning golf cart with fire extinguishers, and he tells her to take her time because it doesn't make sense to blow out the fire before people have seen it. So they are waiting to have everybody's attention on the golf course so that it's a big show.
À mon sens, dans cette scène, je pense que Mathias on comprend pas forcément tout de suite la situation. On découvre d'ailleurs plus tard les tenants et les aboutissants, mais en fait, il y a un client qu'il a embauché pour accomplir une action héroïque avec lui. Donc cette femme, au moment où elle arrive pour éteindre justement le feu de la voiturette, Mathias commence à la diriger, à lui donner des indications, parce qu'il pense que c'est pas logique qu'ils éteignent si vite l'incendie. Il faut que ce soit vu, il faut que ça ait attiré l'attention de leurs spectateurs, si on peut dire, avant justement qu'ils éteignent cet incendie-là.
En fait, il est en train de faire sa promo.
It's not for him. It is the rented client who wants to be hero in front of her friends at the golf course. He's just such a professional that he knows in a situation like that where they stage this whole thing just for her to end him to be heroes in the end. How they need to do it so that people come and rush to that and still see them in their heroic act.
Alors là, il n'agit pas tant pour lui, il est vraiment au service de sa cliente, il est vraiment dans le personnage qu'il est en train d'incarner, c'est-à-dire une femme qui se rêvait en héroïne devant ses amis sur ce terrain de golf. Et en fait, lui, dans son professionnalisme, il est en train de la mettre en scène, de lui dire justement, si on va être des héros ensemble, il faut que justement tu attendes que les gens se précipitent vers nous pour ajouter un peu d'effet.
Quand il est avec la femme au moment du concert, il fait tout un discours sur la musique qu'on vient d'entendre. Donc on a l'impression que vraiment c'est un musicologue. En fait, si l'on écoute bien le discours, on a l'impression qu'il a tout pris sur Wikipédia. La seule qui réagit, c'est la jeune femme norvégienne, Ina, qui dit « Ah oui, c'est un peu ce que je ressens, etc. » Est-ce que le fait qu'il soit tellement caméléon, à chaque fois, il a une étude à faire sur le client ou la cliente pour qui il va travailler?
Yes, people working at these rent-a-friend agencies have to prepare extremely precisely for their assignments. it is a very high-priced agency, so it's something only rich people can afford. And of course, their service is by preparing to knowing everything about the client, because if they're being asked for how long they know each other, or if they have met their parents or whatever, they would need to know something like that. But also when they're going to a concert together, they prepare by getting knowledge about the artist and knowing a lot about the music. So I think it might be a bit more than Wikipedia. He's always rented to impress the friends of the client.
C'est vrai que les employés de ce genre d'entreprise doivent faire un grand travail de préparation, puisque c'est un service qui a un certain coût, qui est réservé aux plus fortunés, et donc c'est un travail en amont qui passe d'abord par un profilage du client. Il faut inventer un passé commun, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se connaît, est-ce que il a déjà rencontré ma famille par exemple, et puis en l'occurrence aller à un concert, ça veut dire se renseigner sur l'artiste, sur le genre musical, c'est probablement bien au-delà du Wikipédia. Donc c'est vrai que souvent quand on l'embauche, c'est pour impressionner en un sens.
J'ai dit Wikipédia parce que je suis un peu méchante. Quand il raccompagne donc sa cliente, elle l'invite à venir prendre un verre. Ça, elle le drague un petit peu d'une certaine manière. Et puis elle propose de l'argent. Il dit non, votre satisfaction, c'est la seule chose qui m'intéresse. Il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, on a l'impression d'une maison sans caractère. Ça sort un peu comme dans un magasin d'ameublement. Il amène cette espèce d'horrible sculpture gonflable de l'ours. Et donc, on voit son épouse qui, elle, a l'air d'une fille qui est assez pétillante, drôle. Et lui, il la considère exactement comme une cliente. Quand elle lui dit « Tu veux du rouge ou du blanc ?» Il dit « Non, non, mais comme toi, c'est pas un problème. » Est-ce que dès l'écriture, tu as joué là-dessus ?
When I went to Japan to meet people working at these rent-a-friend agencies, I met a person working there who told me that because of his odd job being someone else every day, he's got the problem that he doesn't know how to be himself anymore. And that's what I took for the main character. I found it extremely tragic and thought, okay, that's a great way to build a satirical story around it. Matthias is perfect working in his society, but he doesn't know how to be real anymore. It's not that he has no emotions anymore, it's just that they are hidden some layers underneath. And whenever he's at an assignment, he knows exactly what he has to do because his client tells him to. But when he's at home and in his private life, nobody tells him what to do, and that's when he's being lost.
Et c'est vrai que quand je me suis rendu justement au Japon pour faire des recherches sur des employés de ce type d'entreprise de location d'amis, j'ai rencontré justement une personne qui ne savait plus qui elle était elle-même. Et au-delà de la dimension tragique, je me suis dit que c'était le socle idéal pour construire une satire en fait. Donc ici, c'est quelqu'un qui est rompu à l'exercice de jouer un rôle en société, mais qui n'arrive plus à être authentique, non pas parce que ses émotions auraient disparu, mais parce qu'elles sont vraiment enfouies très très profondément en lui, et que autant il n'a aucun mal à jouer un rôle quand on lui donne des indications, autant à la maison, il a beaucoup plus de mal à être lui-même.
Cette raison que dans le repas avec son collaborateur, donc un repas d'amis, ça commence avec Sophia qui fait la marche du caméléon. Lui, il est en train de guetter tout le monde parce qu'il sait pas en fait comment réagir. Alors il essaye en fait de plaire à tout le monde.
Yes, that's right. At the dinner with friends, where different opinions are in one room, he takes time to observe to see what's the opinion that might be the profoundest so that he can agree to that. For him, as he has lost the capability to be himself, he doesn't really have an own opinion. And that is what his spouse, Sophia, is also wanting in him, that she wants him to be real, to show real emotions, to choose a side, to be alive. And that's the problem, that he doesn't have that anymore.
C'est vrai que dans cette scène justement de dîner entre amis, on entend plusieurs avis s'exprimer et on le voit scruter à la recherche de l'opinion le plus recherché sur lequel il pourrait s'accorder justement. Et il a une vraie difficulté à se faire son propre avis et je pense que Sophia à ce moment-là veut de l'authenticité de sa part, veut une véracité dans ses émotions et lui il est perdu par rapport à ça.
Quand ils se séparent, il est très triste. C'est là que commence vraiment la crise qu'il va traverser. Il essaye de la rencontrer, de lui parler, et toutes ses tentatives tombent complètement à côté. Même la tentative quand il aide dans la scène de rue, elle croit que c'est tout est monté.
Matthias tries different ways to find himself, to find back to his core. It is very difficult for him, and throughout the movie, he at some point starts to feel emotions and he starts to be more real. But the problem is that by being more real also means being not as perfect in his jobs anymore. With his private life, at some point when he is already at the point where a lot of things have become worse, he decides to go back to old manners.
Matthias, on peut dire, essaie de se retrouver, de retrouver ce qui fait son essence de plusieurs manières différentes et on voit que progressivement il arrive à ressentir quelque chose, il est plus en prise avec sa propre réalité, mais ce qui veut aussi dire être moins parfait dans les rôles qu'il doit incarner au travail. Et dans son intimité, on voit que ça s'empire, donc on voit qu'il revient à des mécanismes qu'il connaît. Voilà, ça c'est la réponse que je peux faire pour essayer de ne pas trop divulgâcher l'intrigue.
Est-ce que ce genre de boîte, ça existe en Allemagne?
There are agencies already working or operating internationally. So you can rent friends in Austria. You can also rent friends in France. I do not know for other countries, but I've looked it up before coming here. But it's more the beginning. You still rent friends, for example, to get a tennis partner if you're alone in a foreign city, or I could, for my days being here in Paris, rent a friend to be shown around by a local, to be shown his real Paris, for example. But I do think if we have a look at social media, where everybody presents themselves in the best manner, and it's constantly about self-presentation, that superficiality is increasing in our society, and that these agencies would also work really well here.
Il y a des structures qui opèrent à l'échelle internationale. Je sais que ça existe en Autriche, aussi en France. J'ai fait des recherches avant de venir ici, mais c'est des choses assez basiques comme louer un ami pour jouer au tennis ou quand on se rend à l'étranger et qu'on connaît personne. Par exemple, à Paris, j'aurais pu louer un ami qui m'aurait fait découvrir son, entre guillemets, vrai Paris. Mais de manière générale, c'est vrai que quand on voit la prégnance des réseaux sociaux, on doit sans arrêt montrer sa meilleure image et tout est une question d'apparence. Je pense que cette société de la superficialité est un terreau très fertile pour ce genre d'entreprise.
D'après toi, pourquoi c'est tellement développé au Japon?
Well, in Japan, isolation and loneliness is very big because there have been many wars in Japan and people had to rebuild after it again and again and again, and it became very common that everybody did everything to make the country great in a quick way, and social interaction and family, these things have gotten to the background. And because of that, you know, isolation and loneliness grew. Also, many people are so lonely because they have never felt or haven't felt physical touch in years. Here, if we don't have anybody, we shake hands with someone at some point, but there you bow, so there is no physical touch. And I guess that's why it's easier to grow lonely there.
Je pense que c'est un pays dans lequel on voit un isolement et une solitude particulièrement grande, et c'est dû à mon avis au fait qu'il y a eu un certain nombre de guerres. C'est un pays qui a sans cesse dû être reconstruit, et en fait les Japonais ont assez rapidement dû mettre le pays sur pied à chaque fois, au détriment de leurs interactions sociales, au détriment de leur vie de famille qui passait au second plan, et ça n'a fait qu'accroître le sentiment de solitude. Et aujourd'hui, je pense qu'on voit des gens qui ont parfois passé des années sans le moindre contact physique, notamment la manière dont ils se saluent à distance, alors qu'ici on peut serrer la main, et donc je pense que cette absence de contact physique fait le succès de ce genre d'entreprise.
Une phrase revient dans la bouche de Sophia quand Matthias ramène cette fameuse sculpture gonflable. Il dit « ça va faire de l'effet sur nos invités ». Et elle reprend exactement la même phrase quand elle revient à la maison avec un énorme chien. Elle est très ironique, mais je ne sais pas s'il capte ce qu'elle est en train de lui dire.
Yes, he does understand that she's being ironic. I think we see it in his face that he realizes she's trying to provoke him with that. But of course, as he is himself being lost, he doesn't react provoked. He avoids this topic and asks her, so how do you like the flowers? And in society, to be a great boyfriend, he has to bring home flowers a lot and make her gifts, but that's nothing she wants. It's, of course, kind and nice, but she wants to have somebody real to talk to. Also, acting through provocation.
Il perçoit effectivement cette dimension provocatrice, on le lit un petit peu sur son visage. Elle, elle essaye de le provoquer justement pour obtenir une réaction de sa part, mais il est tellement paumé qu'il préfère éviter cette confrontation et il réagit en lui parlant des fleurs. Notamment parce que la société, je pense, attend d'un compagnon un certain nombre de cadeaux comme des fleurs, ça fait partie un petit peu des codes sociaux, mais elle, elle se désintéresse totalement de ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est avoir un compagnon qui serait dans le réel, qui réagirait quand on le provoque.
D'ailleurs, elle dit à deux reprises, une première fois, elle dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mathias? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus vrai. » Et une deuxième fois, où là, elle lui dit, elle veut couper les ponts, et elle lui dit « Mais fais-toi aider. »
She wants to wake him up. She wants to make him realize that there is nothing genuine about him anymore. To her sentence, you're not real anymore, he answers, but I am here. So he's answering physically, of course he's real, not going to the core of his emotions and his real self. She wants him to find himself, to find out how to be reacting to real life situations again. When writing this, for me it was clear that something in his private life should be the reason for his search for himself. And the big topics of cinema are love and death, and breakups are the death of love, and I think that's a good starting point to change something in him.
Oui, c'est vrai qu'on a la sensation qu'elle essaye de le secouer pour le réveiller. Elle voit qu'il n'y a plus rien de sincère chez lui. Quand elle lui dit justement « j'ai la sensation que tu n'es pas réel », lui répond « mais je suis là ». Il parle de la dimension physique. Il élude complètement la dimension justement introspective de la question. Et elle veut qu'il arrive à se retrouver, à connecter avec son moi profond. Et elle veut quelqu'un qui réagisse aux aléas du quotidien. Et c'est vrai qu'à l'écriture, je voulais que cette recherche dans laquelle va se lancer Mathias viennent des aléas de sa vie intime, en fait. Et on dit qu'il y a deux grands sujets, justement, dans le cinéma, qui sont l'amour et la mort, et une rupture, c'est la mort de l'amour.
La scène dans le restaurant avec le prétendant à peut-être un poste dans l'agence. Donc David, Mathias et cet homme. Et Mathias dit une chose, c'est la petite clé. Nous jouons dans la vraie vie, c'est un travail énorme. Il faut garder une limite entre le rôle et soi. Il faut aussi savoir quitter le rôle, ne pas le laisser nous atteindre. Or, Matthias, il a plus de repères.
Absolutely, that's right. We were talking about this, Albrecht Schuch and I, for example, in preparation for the film, as an actor also constantly, you know, needs to be able to get rid of his roles again. And Albrecht, for example, told me that in acting schools you learn so much how to become the role, but you don't really learn how to get rid of it again after film. And that he himself found his own ways to do that. But in the case of friend agencies where these employees act in real life, it's even more difficult because there is no safety barrier anymore. It's not like on stage and not like in a film where everybody knows it's an act. It's really just the client and yourself. And I think it's a lot easier to get lost when you pretend to be someone else the whole day in real life.
En amont, avec Albrecht qui joue le rôle principal, on a énormément parlé de ça, de comment est-ce que les acteurs peuvent se débarrasser des rôles qu'ils ont endossés. Il me disait notamment que quand on est à l'école en tant qu'acteur, on nous apprend beaucoup à devenir le personnage, mais très peu à quitter ce personnage. Donc lui, il a dû développer sa propre méthode. Et ici, c'est particulièrement ténu, puisque les employés de cette agence jouent dans la vraie vie. Ils n'ont pas les garde-fous de l'acteur que peuvent être la scène ou la caméra. Ici, c'est simplement le client et eux-mêmes, donc il est beaucoup plus facile pour eux de perdre pied.
Je ne vais pas avancer vers, disons, le dénouement du film que je trouve extraordinaire. C'est une fin ouverte, elle est absolument merveilleuse. Je la trouve très positive, mais peut-être que ça, c'est mon interprétation. Simplement, je voulais savoir le rôle des oiseaux. Ce pan qui revient à deux reprises dans le jardin, et puis sur le toit de la voiture, et ensuite, il y a le corbeau. Peut-être un canard qui est rentré dans la voiture et qui déclenche l'alarme, etc. Quelle a été pour toi l'importance du rôle de ces oiseaux?
Well, I mean, the main bird is the peacock. And I found peacock to be an interesting metaphor for Matthias because male birds are known to, you know, do a lot of things to show off, to be attractive. Some of them are able to do some ritual dances or fly in a very specific way. The peacock does not fly, doesn't like it, and he doesn't do it a lot. The peacock is able to show his feathers, his beautiful feathers, but apart from that, there is not much behind it. Even his cry is terrible, as we hear in the film. Behind Matthias's facade, it's also like that there is not that much anymore. He can just be perfect at pretending like the peacock and at showing his feathers. And with the other animals in the film, it's not just the ducks. There are also two dogs. The dogs are also a metaphor. There's a rented dog in the film that can be seen just like Matthias. The dog is human's best friend and Matthias is the rented best friend. So yeah, I really like the way of working with animals as metaphors, but it's of course always difficult to work with them on set.
C'est vrai que le pan, ça me semblait être une métaphore très intéressante pour Matthias, et de manière générale, les oiseaux mâles développent un tas de méthodes de séduction, des rituels qui passent par la danse, qui passent par les techniques de vol. Alors le pan vole pas, ou très peu, parce qu'ils apprécient pas trop, mais effectivement, ils ont cette façon de montrer leur plume absolument splendide. On voit que voilà, Matthias a du mal avec ça, même quand il pleure, on sent qu'il y a quelque chose de très factice. On voit qu'il est vide au-delà des apparences, la seule chose qu'il sait faire, comme le pan, c'est de montrer ses plumes. Dans le film, il y a aussi donc un canard, mais il y a aussi deux chiens, et ça me semble être une métaphore intéressante, un chien de location, parce que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, Matthias est un ami de location, donc je trouvais que la métaphore s'imbriquait bien, mais malheureusement, c'est très très difficile de tourner avec des animaux.
Thank you.
ton film, en fait, dégage énormément d'humour noir. Les regarder comme une critique sociale de la société actuelle, c'est-à-dire un monde complètement artificiel, des personnages qui jouent, qui sont faux, qui sont coincés pour paraître.
Yes, I mean, in our world, it's becoming a big problem that everybody wants to present themselves in the best manner. We are kind of not allowed to fail anymore. If you look at social media, it's all about showing off a perfect world, which is not the reality. And it's about taking roles. And I think it's okay to be a different person at home and at work. But as soon as you're being different in this group of friends and in the other group of friends, just to be liked by everybody, then it's becoming fake. And I look at our society and at these problems with a satirical view, because I know that we can catch ourselves in many of these moments. And I do love to create this balancing act between art house and humor, because I think laughing about our own mistakes also makes us realize a lot.
J'ai l'impression que le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde, au fond, veut en permanence montrer son meilleur visage. On n'a plus le droit à l'échec. On fait semblant d'évoluer dans un monde parfait qui serait déconnecté de la réalité. Et j'ai pas de problème avec le fait qu'on endosse des rôles différents quand on est chez soi et dans un cadre professionnel. Mais à partir du moment où on va développer un personnage différent dans chaque groupe social seulement pour être apprécié, on devient faux. Et je voulais poser un regard satirique sur cette dimension-là, c'est-à-dire que justement, parfois, on se surprend soi-même à être factice dans telle ou telle situation. Et ça m'intéressait de trouver un équilibre entre humour et cinéma d'art et d'essai pour explorer cette dimension-là.
Pour moi, c'est complètement réussi. Je ne raconterai absolument pas la dernière scène, qui est très très belle. Enfin, toute, disons, la dernière partie du film, qui pour moi est absolument remarquable. Il y a des trouvailles formidables. Simplement, je voulais que tu me dises comment tu as travaillé la bande-son.
On the soundtrack, for me, it was very important that there is a reoccurring theme that displays him being lost a bit. And I think the reoccurring cello strings has got something like that. And working with Lukas Lauermann, the musician who made the original score, I've already listened to his music while writing the script, and his music was a big source of inspiration for myself. So the cello artist in the beginning of the film is based on him. And it is a film that plays in a high society, and for a high society the art world is also always very important. So that Matthias displays himself and his client very good in front of their friends by pretending to know a lot about art is also something typical for high society, I think, because about geography or biology, you would really need to have a profound knowledge, but nearly all of us can talk about art.
En ce qui concerne la musique, pour moi, il y a un leitmotiv du film qui est le fait que Mathias est déboussolé, et donc je trouvais que ça fonctionnait très bien avec cette musique au violoncelle de Lukas Lauermann, qui est le compositeur. J'ai écouté son travail qui m'a beaucoup inspiré au moment de l'écriture du scénario, et le violoncelliste qu'on voit au début du film est une référence directe. Je me suis inspiré de lui pour ce personnage, et ça m'intéresse aussi la connexion qui peut exister entre la haute société et les domaines artistiques. Voilà, et donc au début on a ce personnage qui fait semblant d'avoir cette connaissance de l'art, ce qui me semble assez typique au fond des implications dans la haute société, c'est-à-dire que s'il devait faire semblant de s'y croire en biologie, il faudrait un vrai savoir technique, alors qu'au fond, tout le monde prétend avoir un avis sur l'art.
Écoute, merci beaucoup pour ce film, que je trouve vraiment très surprenant et vraiment très beau, et le casting est superbe.
Merci beaucoup.
Vraiment. J'attends ton prochain film maintenant. Merci infiniment. Merci Bernard, merci Emile.
Time.
Bernhard Wenger était traduit par Émile Bertera. Peacock de Bernhard Wenger est en salle de cinéma depuis le 18 juin. Radio Libertaire, les Chroniques Rebelles, à présent, Nicap, un film de Rich Pepiat. Powerful, powerful, could be hard than a barful. Most need show not than a partial. Cause you know that I got a bit partial. Marvel, but I'm not a stealthy powerful. Getting whacked in the rain is powerful. Change the moment with your mates is powerful. I revelate to the rain with an if and your job won't ace and you're stealthy powerful. Powerful.
Lived their entire lives in society poisoned by sectarian hatred. Now they're telling us the rave brings Protestants and Catholics together. Powerful, could be hard than a barful. Most need show rap than a partial. Cause you know that I get a bit partial. Marble, learn I'm not a stealthy powerful. Getting whacked in the rain is powerful. Chain smoking with your mates is powerful. I revelate to the rave with an if and your jawbone aches and you're stealthy powerful.
Alors, Nicap, un film de Rich Pepiat. Nicap est un groupe de rap irlandais, trio de Belfast, qui involontairement devient la figure de proue, un peu par hasard, faut dire, d'un mouvement de défense des droits civiques visant à sauver et promouvoir leur langue maternelle, le gaélique. Ils se prennent au jeu, mais sont un peu dépassés quand même. La langue gaélique est interdite par l'occupant britannique et il faut attendre 2022 pour qu'elle soit autorisée et même enseignée. Si l'IRA a déposé les armes en 1998, cela n'efface pas pour autant les discriminations, la séparation étant évidemment servie par la religion. Les religions, je devrais dire, enfin c'est des religions monothéistes, on sait à mettre dans le même sac, on est sur Radio Libertaire quand même. Mais en fait, c'est surtout une question de classe sociale. Donc l'histoire se déroule en plusieurs temps et bien sûr, il faut dire que le gaélique est un rap vraiment très très bluffant. Cela se passe en plusieurs temps. Et c'est le baptême de Mughlai Bab ou Noyce en forêt sur un hôtel clandestin avec des hélicos qui débarquent croyant qu'il s'agit d'une réunion de terroristes. Son père, Arlo, activiste notoire, est recherché par les flics, leur fait un doigt d'honneur au passage. Quelques années d'enfance et de leçons d'indépendance avec Aldo, le père, et voilà Noyce et Lam Hogg inséparables. Aldo disparaît en tombant d'un bateau et quelques années plus tard, on retrouve les deux qui sont en train de se chercher, de vendre de la drogue, qui magouille, jusqu'à ce qu'il rencontre un prof qui s'ennuie ferme dans ses cours. Ce rêve musicien et s'est monté aussi un studio dans un garage. Il dit tout de suite, c'est pas Abbey Road. Là, c'est vraiment le début de l'histoire. Liam Hogg note ses idées, ses impressions dans un carnet et lorsque le prof découvre ses textes à la suite de circonstances étonnantes, il se met en tête de former un groupe avec les deux garçons, lui étant le DJ et le compositeur, intervenant parfois, et les deux autres écrivant et interprétant les textes. Il faut tout de suite dire que c'est un trio et qu'il n'y a pas de chef. Ça, on aime bien sur Radio Libertaire. Kneecap, genou foutu, c'était la pratique de l'armée irlandaise pour punir les traîtres. On leur tirait dans le genou, comme ça ils étaient niqués à vie. Donc Kneecap, le groupe, commence à avoir du succès au-delà de Belfast et de l'Irlande du Nord et dans les chartes britanniques. Alors là, non, c'est trop. Les unionistes et la police, très très en colère. C'est là qu'intervient Rich Pepiat. Je suis tombée par hasard sur l'un de leurs concerts en ville et j'ai été époustouflée par leur énergie, le caractère unique de leur musique et leur fuck you attitude. J'ai eu la même impression. Époustouflant de rythme, d'inventivité, incessance. Et pour son premier long métrage, le réalisateur imagine une nouvelle manière de biopic musical, politique, sociale, sous kétamine et filant à 300 à l'heure. On pense à Trainspotting de Danny Boyle en 1996, d'après le roman de Irvine Welsh, qui évoquait également les conditions sociales en Écosse dans les années 1980-1990. Le rythme et le montage se retrouvent un peu, la musique aussi, mais c'est surtout la réalité sociale qui prime et les drogues. Tout le film est une suite de rebondissements, de trouvailles visuelles, de mouvements extravagants et surprenants, de scratch sur l'image, tant à l'image qu'au son. La poursuite sur le pont est juste grandiose comme un ballet. D'abord, l'un des chanteurs se retrouve devant un groupe d'orangistes, les ennemis, préparant une parade. L'attention est à son comble quand il saisit le bâton d'un jeune garçon qui s'entraînait à le lancer pendant la marche. Commence alors une poursuite éperdue et mémorable par la bande orange poursuivant un garçon habillé tout en vert. Dans une ruelle et puis sur un long pont, poursuite vue sous plusieurs angles jusqu'à l'arrivée de la voiture du DJ, par hasard, qui le sauve in extremis du lynchage. Lui-même. Ce fut une année folle à partir de Sundance et ce fut très gratifiant de faire voyager le film à travers le monde et de constater qu'une histoire si spécifique dans son contexte temporel et géographique pouvait toucher un public mondial. Je pense que c'est dû au fait que l'ombre du colonialisme plane sur tant de pays dans le monde et que cette histoire très spécifique de l'Irlande touche beaucoup de monde. J'étais anglais lorsque j'ai commencé ce projet et je peux maintenant maintenant dire fièrement que je suis aussi irlandais. J'ai obtenu ma citoyenneté en février et j'ai grandi à Londres. Notre système éducatif est conçu pour donner une interprétation très généreuse de l'histoire britannique. C'est un peu partout pareil, hein. Le roman national prime. La domination coloniale britannique en Irlande a été brutale et remonte à 800 ans. Et lorsque j'ai déménagé en Irlande, j'ai voulu me rééduquer. NICAP était à l'avant-garde d'un mouvement populaire visant à revigorer la langue irlandaise, ce qui contrastait fortement avec la stagnation au niveau politique. J'ai pensé qu'il s'agissait là d'un excellent point de départ pour un film.
Jan kentje gewil en die het de wallen. August kleelig naturen en is je lannen. Kurt de veren de wallen, mohi buzzer de viola kai sheer, couple of plumme. Is mara wil kudger be fog if I bump on makara. Katrihe oda aher, sure ka will en doher. Kurt de veren de wallen, mohi buzzer de viola kai sheer, couple of plumme. Is mara wil kudger be fog if I bump on makara. Katrihe oda aher, sure ka will en doher. Mawahar, earth will a marner eat me malone. Tan blast a cocaine ga foil in my fucking drone. A kahi rakni, so the fucking worm in my home. Stone died, I got her born on my fucking phone. Ik still live a kusha rakla on the bice. Tan my brother gave the channel, tan my gul gamai. The rare planet, the coffee, tan me a wadru oak. Nero will mark junior, ugas couple of poke. Good fellas, pizza, yes, iki him Maria. Egan self checkered, acne, ego much deeper. Sir, second food bank, munchies, lethal. Couple of pumps of rest on the lads in Ibiza. Bunch of weight late, then the coagulation tart. During both bucky cocktail cart, the lads are beast, and with a gull or a dry, let's suit the fuck. Couple of bump and a layer. Curta Vera, the Walla Mohi Buzzer, the Viola Kai Sheer, couple of pluma. Is Mara will Kudger be fog if I bump on Makara? Katriha Oda Aher, sure, Ka will and Doher. Curta Vera, the Walla Mohi Buzzer, the Viola Kai Sheer, couple of pluma. Is Mara will Kudger be fog if I bump on Makara? Katriha Oda Aher, sure, Ka will and Doher. Lando chitinish, shockney, welcome this and beer. Kneeling on you see, hard we his the deer. Niakam sitin fucking guarda or be. Yak chanagi shak sheets in RTE. Makara ugas mugli papi stressuna hatcha. Mara dirt me hanna that the yerda for bwacha. A bar lum and sham fit, she sick and bingo. Ni capagoni cons for jack lish and lingo.
Cracking ugas over me home, I shade a holy. A kerna boomy lakela, so go mesh it ray. A jail fee at earn stage, it's a file and dough. A kerna pixar instant in a file my hold. It's the maber up in a cots for you chapter me, yay. Neuro hot and she garlum, judge free him a ray. John him shacking me gear to NPMA. Cause murder won't be cura mock right here straight.
Curta Vera, the Walla Mohi Buzzer, the Viola Kai Sheer, couple of pluma. Is murder will Kudger be fog if I bump on Makara? Katriha Oda Aher, sure, Ka will and Doher. Curta Vera, the Walla Mohi Buzzer, the Viola Kai Sheer, couple of pluma. Is murder will Kudger be fog if I bump on Makara? Katriha Oda Aher, sure, Ka will and Doher.
La colonisation d'Irlande par l'Angleterre date de 1175. En 1366, la couronne fait voter les statuts établissant une ségrégation entre les colons britanniques et les Irlandais. La colonisation s'accélère sous le règne des Tudors en 1556, lorsque les terres sont confisquées aux Irlandais pour créer des plantations sous contrôle britannique. En 1921, après plusieurs années de conflits armés, la République d'Irlande prend son indépendance du Royaume-Uni, mettant fin à des siècles de colonisation britannique sur l'île. Néanmoins, six comtés de la région d'Ulster, majoritairement peuplés par des Anglais, décident de rester placée sous l'autorité de la couronne britannique, créant l'Irlande du Nord et séparant le pays en deux. Le conflit en Irlande du Nord, connu sous le nom de The Troubles, s'étend de 1968 à 1998. Il oppose les unionistes protestants aux indépendantistes catholiques qui souhaitent la réunification avec la République d'Irlande. Les deux camps s'affrontent à travers des organisations paramilitaires, l'IRA, provisoire pour les indépendantistes, et l'Ulster Volunteer Force pour les unionistes. L'un des événements marquants du conflit est le Bloody Sunday, on connaît le film, lorsque l'armée britannique tire sur une manifestation pacifique pour les droits civils des Irlandais, provoquant ainsi la mort de 14 manifestants.
I meditate and have plenty of wine, sand and embers for a second fall for constant suits. And when the revolution comes on first out of loot.
Nicap de Rich Pepiat, premier long métrage, un film vraiment à voir. Toujours depuis le 18 juin, Un rêve plus long que la nuit, c'est un film de Nicky de Saint-Phal. Deuxième long métrage de Nicky de Saint-Phal, réalisé en 1976, Un rêve plus long que la nuit, projeté seulement dans quelques salles parisiennes à l'époque, est aujourd'hui restauré et sa sortie accompagne l'exposition au Grand Palais intitulée Nicky de Saint-Phal, Jean Tinguely et Pontus Ulten. C'est depuis le 20 juin et jusqu'au 4 janvier de l'année prochaine. Le film de Nicky de Saint-Phal est une balade onirique dans l'univers fantastique du conte. Un conte qui rompt avec les codes habituels et entraîne le public dans une série de visions transcendées de la guerre et de la mort. Tout d'abord facétieux, le conte met en scène une fée, une sorcière plutôt, qui demande à la petite princesse Camélia de prononcer son vœu le plus cher. « Devenir adulte », répond-elle. Et voilà la féerie enfantine transformée brusquement en un voyage où la perversion devient la norme, alors que Camélia, devenue jeune femme, découvre le monde adulte avec ses règles inquiétantes, évidemment patriarcales. Camélia est une Alice à travers le miroir où des êtres fantastiques côtoient une réalité effrayante. Tout l'univers fantasmagorique de Nicky de Saint-Phal s'y déploie pour donner corps aux formes visionnaires et variées du désir que Camélia suscite et traverse, telle une candide obstinée. Trouver la lumière dans un monde de chaos et de mort, est-ce possible ? Un rêve plus long que la nuit est une œuvre riche, une déambulation imaginaire, poèmes et fables où les figures mythiques se croisent et sont revisitées. Le dragon, le magicien, la ville, telle métropolis, machine de fer et de bruit, au sein de laquelle se trouvent les sept portes qui conduiront Camélia à travers l'horreur, la mort, la cruauté, la corruption, la luxure, et jusqu'à la guerre. Cauchemar, prise de conscience, qui sait ? Camélia poursuit néanmoins sa quête, toujours déterminée, malgré la perte de ceux et celles qu'elle a rencontrés. Adieu le bel homme oiseau. Le film se déroule comme une suite de tableaux, symboliques d'une société adulte et violente, que Camélia, jeune fille, traverse avec constance, même malgré certaines entités maléfiques qui se démènent par la pression, la peur et la manipulation pour la piéger. Un rêve plus long que la nuit de Nicky de Saint-Phal est un film où la magie le dispute aux images surréalistes. Un film curieux et une belle œuvre à voir, si possible parallèlement à l'exposition au Grand Palais. Le film est dans les salles depuis le 18 juin. Film de Manele Labidi, depuis le 17 juin en DVD, Blu-ray et VOD. Amel a du caractère, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle vit avec son compagnon et ses deux filles dans un quartier qu'elle aime, mais voilà que son propriétaire veut récupérer l'appartement pour son fils. Pour Amel, il n'est pas question de déménager pour aller dans un quartier populaire et mettre en danger l'ambition qu'elle a pour ses filles. L'école correspond à ses critères. De plus, elle estime qu'elle vient d'une famille notable, comme elle le répète souvent à son mari. C'est alors que Mouna, sa fille aînée, à la suite d'un cours d'histoire sur Charles Martel, qui aurait arrêté les Arabes à Poitiers en 732, a d'étranges visions de ce Charles Martel mythifié, revenu du passé. Ah, le roman national qui se prend les pieds dans le tapis. C'est la Loire qui a arrêté la progression des conquérants arabes, ou Charles Martel, dont d'ailleurs on ne sait pas grand-chose. Je me souviens, dit Manele Labidi, d'un sentiment de malaise et même de culpabilité. J'en ris facilement aujourd'hui, mais avec le recul, je crois que c'était la première fois que je réalisais que j'étais une arabe en France. À l'époque, je ressentais le racisme, sans vraiment le nommer, à travers la télévision, les sketchs de certains humoristes, la fameuse chanson de La Gaffe, La Zobéida, la montée du Front National, la guerre du Golfe, le bruit et l'odeur de Chirac. Mais je crois que ces quelques mots, Charles Martel arrêta les Arabes en 732 à Poitiers, ont eu un impact encore plus fort. L'apparition de Charles Martel, vue par elle seule, correspond aussi à une période où Mouna est en butte à des moqueries racistes qu'elle ne supporte pas. Toujours est-il que Mouna et Charles Martel deviennent copains, mais ils restent invisibles au reste de la famille. Bonne idée de pointer ainsi le racisme, avec humour, sans pour autant en abandonner la critique. Le film est une fable dont l'enfance de la réalisatrice dans la France des années 90 est le point de départ. Mais le film est le résultat d'un alliage entre l'intime, la fiction, les émotions refoulées, la mémoire sélective, les fantasmes passés et présents. Une reine-mère magnifiquement incarnée par Camélia Jordana. Reine-mère de Manele Labidi en DVD, Blu-ray et VOD depuis le 17 juin. Montant, un film de Yacine, Le Costumé, en ligne aujourd'hui, le 21 juin. C'est un premier film autoproduit et du coup autodistribué puisqu'il le met en ligne. J'ai dû utiliser mon réseau de la musique pour pouvoir le diffuser. Il va être mis en ligne gratuitement sur le média Demolition, qui est une référence dans le milieu du rap, à partir du 21 juin. Je suis allée jusqu'au bout de mon rêve et de mes ambitions en totale autoproduction avec des sacrifices. Mais je suis heureux d'avoir construit quelque chose de personnel qui, je l'espère, me permettra de de continuer et de rencontrer des producteurs pour faire d'autres films. Ce n'est pas un biopic, mais le film se nourrit de l'expérience personnelle du réalisateur, de son observation pour écrire un scénario mêlant fiction et souvenirs personnels. C'est un film artisanal qui mérite l'attention et l'intérêt pour sa démarche originale alors qu'il explique son envie de cinéma. J'aime un cinéma contemplatif. Je préfère quand la mise en scène retranscrit une humeur ou un mood, plutôt qu'un scénario avec un million de rebondissements. Dès l'écriture, j'avais pensé à ces séquences où on roule en voiture, en plan séquence, où l'on filme deux personnages et où la caméra va de l'un à l'autre. Ou encore des scènes de déambulation comme celle du générique. La musique m'influençait souvent. On voit Yacine sur une scène de freestyle, mais Mon Temps n'est pas un film musical, plutôt le récit d'un jeune qui se cherche. Un gars qui travaille comme tout le monde, qui taffe le matin et rentre tard le soir. Ce sont des gens que j'ai croisés dans les boîtes d'intérim. La vie les a forcés à se ranger et on devine qu'ils ont toujours une certaine amertume par rapport au temps qui est passé. Alors Yacine décide de faire un film, de se lancer dans l'aventure, écrire un scénario, le réaliser, mettre en scène des personnages, des proches, de manière instinctive et d'incarner lui-même le personnage principal. Une démarche d'autant plus originale qu'il n'a certainement pas en tête de faire un dérivé de Success Story, comme il le souligne. On raconte toujours l'histoire de ceux qui ont réussi. Moi, je voulais mettre en lumière les gens qui se sont retrouvés à échouer dans ce qu'ils ont entrepris. La toute dernière séquence du film représente mon mode de pensée et même un peu ma situation actuelle. Yacine retrouve son père, avec qui les relations ont été un peu conflictuelles tout le long de l'histoire. On croit à ce moment du film que Yacine a tout perdu, mais il renoue avec son père. Le personnage du père avec lequel il s'accroche au départ s'inspire aussi de ses observations, d'anecdotes personnelles modifiées. Dans mon cercle familial, ma mère est algérienne et mon père est français. Mais je n'aime pas ramener le sujet de l'immigration sur la table, car on risque toujours d'être sur les clichés des origines des personnages. C'est sans doute pour cela que mon père de cinéma n'a pas de nom. Il n'y a pas d'allusion à son origine. C'est juste par son faciès que l'on se dit qu'il doit être maghrébin. Je voulais avant tout représenter un père de famille né dans les années 70 et ayant passé sa jeunesse dans les années 90. Évoquer à travers lui un autre temps que le mien, une époque plus insouciante, d'une certaine manière. Le temps est lié au travail, au fait de vouloir s'en sortir, quitte parfois à prendre des risques pour s'en sortir. Le temps du père, c'est une jeunesse où, comme il le raconte, il passait son temps à glander. Un de ces gentils loubards des années 90, ce sont des personnages que l'on a beaucoup vus au cinéma, dans leur vingtaine, comme dans le film La Haine, par exemple, mais rarement la cinquantaine venue. Finalement, il n'est pas question de réussite dans le film, mais plutôt de quelqu'un qui échoue, se fait flouer, mais se relève. Dans une société de compétition, il vaut mieux suivre son rêve, ne pas suivre l'injonction de réussir, qui est un piège. Élisée Reclus le disait d'une autre manière. Tant que notre triomphe ne sera pas en même temps celui de tous et toutes, ayons la chance de ne pas réussir. Mon Temps de Yacine le Costumé est en ligne aujourd'hui, le 21 juin. Once Upon a Time in Gaza, un film de Tarzan et Arab Nasser. Once Upon a Time in Gaza, il était une fois à Gaza. Nouveau film des frères Nasser. après l'inénarrable dégradé et son incroyable huis clos dans un magasin de beauté et la liberté de langage des femmes dans un contexte dramatique, après Gaza mon amour, on n'est pas prêt d'oublier la statue antique qui bande, venue des fonds méditerranéens, et un pêcheur qui refuse les règles. Voici « Il était une fois à Gaza » qui se déroule en 2007. Cette date n'étant pas choisie au hasard, elle marque en effet la victoire du Hamas aux élections législatives, avec ses conséquences, blocus militaire, politique et économique. La bande de Gaza, associée au Hamas à partir de cette époque, cela arrange finalement Israël et les Occidentaux, qui juge en bloc la population gazaoui comme étant hostile et donc il convient d'imposer un siège. Une déclaration de Trump, première mouture, ouvre le film et la propagande à tout craint. Ce qui donne par ailleurs, il faut le souligner, l'opportunité au Hamas d'exercer son autorité sans contrainte, de même que les gouvernements militaires israéliens peuvent utiliser Gaza comme terrain d'entraînement pour les armes et communiquer dans les différents salons de l'armement. Dans ce contexte, trois personnages se croisent dans Once Upon a Time in Gaza, Il était une fois à Gaza. Un étudiant, Yahya, qui ne peut plus se rendre en Cisjordanie pour rejoindre sa famille à cause du siège. Osama, un dealer sympa qui lui, comme le pêcheur de Gaza, mon amour, refuse les règles et tient à son autonomie. Enfin, un troisième personnage, beaucoup moins sympathique, un flic pourri qui a le pouvoir de s'immiscer en toute impunité dans les affaires d'autrui et d'en tirer profit. Alors, lorsque Osama embauche Yahya pour tenir son échoppe de falafel, qui en sous-main écoule de la drogue, le flic, lié au régime, rapplique pour avoir une part des profits. Trafic qui sauve Yahya de la misère et permet à Osama de vivre à sa manière dans ce qui est une prison à ciel ouvert. C'est sans compter sur le perturbateur, le flic. Once Upon a Time in Gaza, Il était une fois à Gaza, est aussi l'occasion de montrer la vie à Gaza hors des cadres habituels de la guerre. En 2007, il y a bien sûr des bombardements et des victimes, des manifestations et un climat d'instabilité continuelle, mais c'est aussi montrer le quotidien d'une population coincée entre une armée occupante et ses propres dirigeants qui réduisent les libertés. La politique, disent les réalisateurs, s'infiltre dans chaque aspect de la vie palestinienne. Ce n'est pas un choix, c'est une réalité quotidienne qui nous affecte, même dans des gestes simples comme préparer un sandwich, prendre une douche, nettoyer sa cuisine. Nous n'avons pas besoin de répéter la situation politique, ni de nous poser en victime. Nous sommes des êtres humains qui méritons la vie. À Gaza, il y a certes la guerre, mais aussi une vie pleine de vitalité et des milliers d'histoires du quotidien. Avec cependant la menace que l'histoire palestinienne peut être effacée du jour au lendemain. C'est ce qui se passe en ce moment dans cette guerre génocidaire. Gaza est un endroit où rien n'est certain, pas même la vie elle-même, qui peut se terminer à tout moment de manière inattendue à cause des guerres coloniales qui ont tout consumé et d'un blocus drastique qui continue de broyer les vies et le territoire. Alors, Once Upon a Time in Gaza, Il était une fois à Gaza, c'est aussi une manière, grâce au cinéma, de se réapproprier une histoire. Le film a été tourné en Jordanie, et le plus grand défi était de recréer Gaza, de manière à ce que toute personne connaissant Gaza puisse avoir l'impression que le film a réellement été tourné là-bas. En tant que Gazaoui, explique Tarzan et Arab Nasser, Gaza continue de vivre en nous, ses quartiers, ses histoires, sa silhouette et son esprit, depuis le jour où nous avons été contraints de la quitter. À travers nos films, nous libérons une profonde nostalgie mêlée de désir, en tentant sans cesse de faire revivre Gaza. C'est pourquoi nous tenons à tout faire nous-mêmes, en veillant minutieusement à chaque détail, du décor à l'éclairage, jusqu'au plus petit élément visuel de chaque plan. Ce processus est pour nous la plus haute forme de satisfaction et d'engagement. Nous ne réalisons pas simplement un film, nous constituons une véritable archive cinématographique de Gaza. Une Gaza que le monde se lasse de voir réduit à des flashs d'actualité ou à des documentaires. Alors que pour nous, c'est une vie pleine, vibrante, qui mérite d'être racontée et préservée à travers le langage du cinéma. Nous rêvons de réaliser un jour un film purement palestinien qui n'aurait rien à voir avec la politique. Mais cela ne sera possible que lorsque les Palestiniens auront acquis leurs droits humains fondamentaux, la justice, la liberté et la dignité. Faire du cinéma à Gaza, c'est aussi faire de la résistance. From Ground Zero, film réalisé par 22 réalisateurs et réalisatrices gazaouis, montre bien l'enjeu important de l'image, de la création cinématographique, même au cœur d'une tragédie. Once Upon a Time in Gaza joue sur plusieurs genres, thriller, film noir, comédie ironique, drame. Et lorsque Yahya est casté pour jouer le rôle d'un héros national dans un film de propagande, le premier film d'action palestinien, lui dit le réalisateur. Gazaoud, dit-il au commanditaire du régime. C'est l'opportunité pour les frères Nasser, outre la dimension du film dans le film, de jouer sur la critique de la construction de l'image et sur l'humour, comme ils savent si bien le faire. Et comme dans les contes des mille et une nuits, il y a aussi la fatalité. Once Upon a Time in Gaza de Tarzan et Arab Nasser au cinéma le 25 juin. Once Upon a Time in Gaza de Tarzan et Arab Nasser au cinéma le 25 juin. Amin Bouafa a composé la bande originale de Once Upon a Time, mais ce n'est pas celle que nous entendons. C'est une autre musique originale de film de Amin Bouafa, Les filles d'Olfa de Kauter Benania.
Tu seras là-bas.
Reflet dans un diamant mort. Film de Hélène Cattet et Bruno Forzani. Bruit de vagues, flou de la mer, gros plan sur les yeux d'un vieil homme qui regarde une fille marcher sur la grève. Les images se confondent. Le passé et le présent se confondent aussi dans la perception de cet ancien agent des services secrets, avec une constante, les diamants, et son obsession pour une femme insaisissable qui se transforme grâce à des masques, dont il retrouve des parcelles, une bouche, un œil, rejetés sur les graviers de la plage. Les images se brouillent continuellement entre le passé et le présent. Il se baisse âgé et se relève dans la force de l'âge. John Day, ancien espion, au service de qui? Ce n'est pas toujours clair. D'ailleurs, son éternel ennemi, Serpentique, lui dit dans son repère que le monde n'est qu'illusion. Tu étais mon pire cauchemar. À vouloir faire le bien, tu étais meilleur pour faire le mal.
Les références, je ne sais pas si quelqu'un connaît le Rose Pie, peut-être on peut dire que ce sont des sous-James Bond qui ont été faits à pas très cher en Europe, et notamment en Italie, il y en a eu aussi en France, comme OSS 117, dans les années 60 et 70. Et les Fous Itinéristes, ce sont les bandes dessinées, mais donc il y en avait aussi à la même époque. Souvent les films avaient aussi un pendant bande dessinée italienne, en Italie. Et les Fous Itinéristes, c'était des bandes dessinées où le héros était un méchant, et le plus connu, c'est Diabolique.
L'un des acteurs principaux, c'est pas n'importe qui, c'est Fabio Testi. Il vient avec toutes ses références aussi.
En fait, on a écrit le film pour Fabio, parce qu'on avait vu un film en 2011 qui s'appelle Road to Nowhere de Monty Hellman, et il nous faisait penser à Sean Connery. Il était tout vêtu de blanc comme Dick Bogart dans Mort à Venise, et quand on est sorti de la séance, on s'était dit pourquoi pas un jour faire un mélange entre James Bond et Mort à Venise. Et donc, entre-temps, à l'été 2019, on a vu une expo sur Love Art à Nice, au MAMAC. Et ça nous a replongé dans cet univers des années 60, très psychédélique, très pop. Et donc on a repensé à cette idée qu'on avait eue, et puis on a développé le scénario pendant 9 mois. Et puis donc pendant quasi 5 ans, on a essayé de faire ce film.
Manu Dacos.
C'est toujours avec lui qu'on travaille à l'image depuis le deuxième court-métrage, quand on était encore à l'école de cinéma. On a grandi ensemble, mais c'est toujours un plaisir du coup à chaque film, on est tous à nouveau ensemble. C'est toujours la même équipe, donc c'est toujours un peu comme une fête. Il y a la même énergie et d'essayer de se dépasser, de faire des choses qu'on n'a encore jamais faites, et qui prennent du plaisir.
L'univers des super-héros et autres James Bond est principalement connu par le prisme anglo-saxon. Mais toutes ces figures ont aussi existé en Italie dans les années 60. D'une part, avec les Europsi, qui étaient des contrefaçons européennes pop et bon marché de James Bond. D'autre part, avec les Fumetti Neri, ces bandes dessinées pour adultes, comme Diabolique ou Satanique, où les vilains évoluent dans une zone grise, loin de l'approche manichéenne classique, le bien, le mal, ou des penchants moralisateurs. D'une manière générale, l'univers Europsi véhiculait une image du monde édulcoré, donnait l'illusion de société d'abondance sans limite, où l'on pouvait jouir de tout. Juxtaposer cette image illusoire liée au passé du héros avec le monde d'aujourd'hui était le seul moyen de faire ressortir, par contraste, des préoccupations contemporaines. D'autre part, la diversité des supports de ces univers Europsi et Fumetti, films, BD, romans, photos, nous permettait de traiter organiquement et graphiquement la perte de repères, d'identité, du personnage. Enfin, ces films populaires et pop empruntaient souvent des détails tirés de l'op art, l'art de l'illusion optique. Un des grands thèmes de Reflet dans un diamant mort étant l'illusion, nous avons nous aussi trouvé adéquate de développer visuellement ce thème en intégrant des éléments issus de l'op art, tout comme nous l'avions fait avec l'Art Nouveau dans l'étrange couleur des larmes de ton corps, ou le nouveau réalisme dans Laisser bronzer les cadavres. Reflet dans un diamant mort de Hélène Cattet et Bruno Forzani, étonnamment psychédélique et graphique, au cinéma le 25 juin. Alors ça, c'est la musique de Keith Jarrett, c'est évidemment une petite merveille, ça rompt complètement avec le reste, mais ça fait du bien aussi parce qu'on aime toutes les musiques ici. Et donc on voudrait parler de Au rythme de Vera, c'est un film d'Ido Pfluck qui sort le 25 juin prochain. Alors c'est en 75, mais même elle a commencé avant, mais disons on va dire 1975, une jeune fille de 18 ans, elle a commencé, elle avait 16 ans, elle était au lycée. Vera Brandes, milieu bourgeois, décide d'organiser des tournées et c'est une fan de jazz. Elle surprend tout le monde par son énergie, il est difficile de lui dire non. Elle est vraiment très pushy. De plus, du côté familial, avec un père dentiste réac, elle ment d'abord, puis se trouve obligée de braver les conventions sociales, l'autorité paternelle et les a priori du directeur de l'Opéra de Cologne, parce qu'elle veut organiser donc son concert de Keith Jarrett à l'Opéra de Cologne. Car depuis sa découverte de Keith Jarrett, elle ne rêve que d'organiser un concert dans cette salle. Parallèlement, un critique musical tente d'obtenir un entretien avec Keith Jarrett, prodigue de la musique et de l'improvisation. Il a joué avec Miles Davis. C'est un récit entre réalité et écriture journalistique. Le personnage du journaliste a été créé complètement pour faire un passage entre la temporalité et l'histoire réelle de Vera Brandes. Ça, c'est la vraie histoire. On était deux à voir le film avec Guillaume, donc...
T'as vu, on l'entend chanter derrière.
Oui, on l'entend chanter. Notes. Et bien alors, toi, raconte-moi un peu le film.
Bah, le Au rythme de Vera, Donc ce soir, le 25 juin, c'est l'incroyable histoire derrière cet enregistrement qui a fait... C'est un record de vente de musique improvisée jazz. C'est la plus grosse vente d'albums piano qui tient sur une anecdote, un pari fou d'une jeune fille, Vera Brandes, qui à l'époque a 17 ans. Quand on évoque l'un des plus grands moments de l'histoire du jazz, le Köln Concert de Keith Jarrett, donc ça a été enregistré en 1975, on pense à ce piano un peu bancal, à l'inspiration un peu miraculeuse, devant une salle bourrée à craquer, à l'Opéra de Cologne. Et c'est ça aussi la nouveauté, c'est se transposer le jazz, ou d'ailleurs elle refuse d'appeler ça du jazz, elle dit que c'est entre la musique classique, c'est improvisé, donc c'est pas du jazz, et on le fait dans un opéra pour un peu démonter tous les codes qu'on a l'habitude de voir déjà à l'époque. Mais derrière ce miracle, il y a cette fille, donc Vera Brandes, qui va tenter l'impossible et va nous emmener dans une histoire complètement dingue. Elle veut organiser des concerts, elle veut vivre de sa passion. Avec sa gouaille, son panache, elle fait venir le trio quand même, Ronnie Scott.
C'est-à-dire qu'elle va carrément le draguer dans un café en disant « Moi, j'organise un concert, le type, il est tellement médusé qu'il dit « Bah d'accord ».
Alors, 24 janvier, exactement, 75, elle réussit à convaincre l'Opéra de Cologne d'accueillir ce concert unique, puis très original, mais tout part en vrille. C'est-à-dire problème de logistique... Keith Jarrett est très fatigué, il a des gros maux de dos, et le piano livré à un quart de queue ne convient pas, puisqu'il faut un piano, et elle attend un Bösendorfer impérial, le modèle pour faire un vrai récital, et en fait, ils vont se retrouver avec un piano de répétition, un quart de queue. Keith Jarrett, à ce moment-là, menace d'annuler. Là, c'est le jour J, c'est même à 2 heures de la représentation. Vera va pas se démonter, elle négocie, elle persuade de jouer quand même. Ce qu'il fait, malgré le piano désaccordé, trop petit, sans pédale de sustain. Alors, vous savez que ce piano, il y a 2 pédales, il y a une, c'est la sourdine pour étouffer un peu le son, et le sustain, ça permet au contraire d'allonger la note. Et donc cette pédale est cassée, Keith Jarrett, elle n'est pas content du tout. Mais Vera, la gamine, elle négocie, et finalement il va.
Elle lui dit carrément, c'est parce que tu veux pas tenter l'aventure, quoi. T'as la trouille, quoi.
Cette scène, elle est vraiment à la fois intéressante et assez géniale, parce que c'est là vraiment toute la fougue de la jeunesse, où elle a... on dit plus ça quand on est adulte pour des raisons professionnelles et autres. Et moi, je salue cette fougue. De fait, elle va soulever des montagnes et elle va convaincre ce monstre sacré qui vient être fatigué, abattu, déprimé, à le faire, et elle le pique un peu dans son ego, hein, même pas qu'un peu. Une grande scène de cinéma. J'ai beaucoup aimé.
Moi, je voulais simplement donner un peu la parole au réalisateur, à Ido Pflug, parce qu'il dit une chose qui est assez intéressante. Il dit, si on s'intéresse à l'histoire de la musique des années 70, on constate que l'Allemagne joue un rôle central. Il y a bien sûr les Berlin Jazz Days, l'une des plus grandes scènes internationales de jazz où tous les plus grands sont venus jouer. Et dans le même temps, la musique électronique naît à Düsseldorf. Si on parle de proto-punk et de krautrock, il y a 2 groupes qu'on retrouve dans notre film. David Bowie, Iggy Pop, Lou Reed ont vécu à Berlin et ont trouvé l'inspiration. Tout cela, je le savais, mais il y a aussi l'autre visage des années 1970, celui de la résistance, des révoltes étudiantes, de la RAF, fraction Armée Rouge, du terrorisme, de la fin des utopies des années 1960. J'ai lu une quantité impressionnante de livres à ce sujet, mais en toute honnêteté, la meilleure source a été Vera Brandes. Elle était notre référence. Elle est incroyablement généreuse, très ouverte. Elle m'a raconté ce que cela faisait de vivre à Cologne à cette époque, être jeune à ce moment si particulier, ses rapports avec ses parents et notamment la relation difficile avec son père, on en a déjà parlé. Ce n'est qu'après de longues heures que nous avons parlé de l'histoire de Kiss. Mais tout ce qu'elle m'avait confié avant cela était tout aussi important pour le film. C'était une porte ouverte sur le passé. Aucun livre aussi précis soit-il, ne peut offrir une telle richesse. C'est vrai que dans le film, ce qui est très important, c'est qu'on est vraiment avec elle. Elle est vraiment vivante. Hein. Le film, c'est la réalité subjective de Vera Brandes. Il existe des milliers d'histoires à raconter. Celle-ci, c'est celle de sa Cologne à elle. Et c'est ça aussi qui est très important, parce qu'en fait, elle nous fait vivre une époque, finalement, on n'a pas connu. Moi, j'étais pas à Cologne, nous tous, vous étiez trop jeunes, mais moi, j'étais pas à Cologne, je connaissais pas à ce moment-là. Et je trouve que ça aussi, c'est intéressant. Alors, pour vous dire quand même, c'est que Ido Pflug a eu cette idée, retrouver quand même Brandes, qui était devenue entre-temps, elle a fait des éditions, des albums, etc., puisque c'est vraiment une fan de jazz complètement dingue.
Elle va fonder plusieurs labels.
Voilà, exactement, donc elle a vraiment marné. Puis d'un seul coup, elle s'est dit,
je vais aller plutôt dans la recherche. Et là, le réalisateur et puis toute sa bande, parce que c'était quand même toute une équipe qui était derrière et qui croyait vraiment à cette histoire, et ben, ils l'ont retrouvé sur une plage en Grèce. Et ses premiers mots ont été les suivants. Mais où étiez-vous pendant tout ce temps? Elle attendait depuis des années que quelqu'un raconte son histoire. Dès nos premiers échanges, il est vite devenu évident que ce parcours ferait un film absolument formidable. Je tenais à lui rendre justice, à mettre en lumière le rôle crucial qu'elle avait donc joué dans ce concert historique. C'est quelque chose d'important à mes yeux. Lorsqu'on évoque le concert du 24 janvier 1975 à l'Opéra de Cologne, son nom est trop souvent oublié. On a l'impression qu'elle a été effacée de l'histoire. Je ne suis pas trop étonnée. Hein. Je veux dire, en général, les femmes sont vite effacées.
Le film, il est vraiment sur Vera Brandes.
Tout à fait.
C'est pas sur Keith Jarrett.
Non. Keith Jarrett, en plus de ça, c'est assez intéressant parce que, d'une part, bon, ce film corrige l'histoire, ça c'est certain, et dit vraiment, et souligne, et redit que sans Vera Brandes, ce concert n'aurait jamais eu lieu. Jamais.
Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on entend sa voix tout le long du film.
Souvent, comme référence, on dit oui, c'est que le 75 pour parler du concert, mais en fait, c'est Vera Brandes, c'est sur Vera Brandes, à propos de Vera Brandes, autour de Vera Brandes et évidemment sur le concert de Cologne. D'ailleurs, ce qu'il faut quand même ajouter, c'est qu'en fait, dans le film, on n'entend pas la musique du concert qu'on entend d'ailleurs grâce à Guillaume. Donc, comme ça, on entend vraiment des improvisations de Keith Jarrett, mais on n'entend pas la musique parce qu'en fait, lui, il n'a pas aimé. D'abord, il était enthousiaste, on le voit dans le film, puis après, il était un peu embêté, mais il a fait des trucs absolument géniaux. Alors, c'est pas par hasard si l'album est un des plus vendus dans l'histoire du jazz. C'est incroyable, quoi. Guillaume Martel m'a accompagné dans cette chronique, puisque nous avons vu le film ensemble. Au rythme de Vera est un film de Ido Fluck qui sera en salle le 25 juin, à ne pas louper. Stranger Eyes, un film de Yeo Sule Ua. Des images issues de films familiaux autour d'un bébé, beau, élevé par un jeune couple et la belle-mère, lance le film. Puis c'est le drame lorsque la petite fille disparaît dans un jardin public près d'un toboggan ayant échappé un instant à la surveillance de son père. Alors qu'ils sont à la recherche de leur petite fille disparue, le couple trouve à leur porte des enregistrements vidéo de leurs moments les plus intimes pris par un mystérieux voyeur, les conduisant à enquêter pour révéler la vérité derrière ces images et sur eux-mêmes. Stranger Eyes est une méditation cinématographique et philosophique sur nos existences diffractées dans la géométrie des paysages urbains et sur ce besoin d'être vu qui persiste en nous malgré l'omniprésence des caméras de surveillance qui enregistrent tout, sans pour autant percevoir les profondeurs obscures de la nature humaine. Peu à peu, le couple se délite au cours de la recherche de la petite fille et tout le monde se surveille. Le voyeur, un homme vivant avec sa mère handicapée, devient le surveillé, sans que l'on puisse prouver quoi que ce soit quant à la disparition de l'enfant, sinon qu'il filmait le jeune couple. L'enquête autour de la disparition du bébé a des répercussions profondes et inattendues. Ces moments où la réalité se fissure permettent de rendre le quotidien plus étrange et remettent en question certaines de nos convictions. Et d'ailleurs, si nous fixons quelqu'un intensément et que nous l'observons longtemps, nous commençons à lui ressembler. C'est un processus mimétique qui se produit sans qu'on en ait conscience. On commence à marcher comme lui, à parler comme lui, à adopter sa gestuelle et ses expressions. Ce processus de transformation est loin d'être anodin. Je ne crois pas à une observation neutre et objective, note le réalisateur. Il faut forcément projeter une part de notre humanité sur ce que nous observons pour pouvoir lui donner un sens. Il est donc naturel que l'on finisse par voir ce que l'on veut voir, ou pire, on finit par ne voir que soi-même. C'est ce qui arrive aux deux personnages masculins du film. Parfois, je me demande s'ils ne sont pas simplement le passé et le futur qui s'observent mutuellement. Lorsque sa compagne le quitte, il se retrouve dans la position du voyeur, l'observant elle et l'enfant. Stranger Eyes de Yeo Sule Ua, au cinéma le 25 juin.
Melek, photos trouvées et gravures de Julie Doucet, des textes rassemblés par Benoît Chapuis. Alors j'aimerais, Adrien, que tu me dises un petit peu qui est cette maison d'édition, Loi de Cravant, que je ne connaissais pas.
Loi de Cravant, moi j'en suis l'humble émissaire en France, mais c'est une maison d'édition qui a été fondée il y a 33 ans à Montréal, par Benoît Chapuis notamment. Benoît Chapuis, il lisait beaucoup de poésie surréaliste, notamment Louis Cutener, un poète belge, qui lui avait été conseillé par Pierre Pushmore, un autre poète qui a écrit Plus vivant que jamais, un recueil sur mai 68, et beaucoup de poésie, dont beaucoup de recueils ont été édités par la suite à Loi de Cravant. Et Benoît, il dit à un moment, en lisant Louis Cutener et en lisant de la poésie, que c'est la meilleure chose qu'il peut faire, éditer des livres. Et il croise dans un bar Simon Bosset, et il rencontre aussi Julie Doucet, et du coup il fait aussi des éditions de BD. Et Julie Doucet, à ce moment-là, en années 80-90, elle vient un peu à New York, elle fait de la BD, à partir de collages, de montages, de la BD assez trash punk, un petit fanzine s'appelle Fantastic Plot, qui sera édité plus tard à Loi de Cravant, et après à l'association. Elle est un peu une des pionnières de la BD féministe, assez trash. Et c'est un duo un peu qui continue à se lier d'histoire et d'amitié, de croisement. Notamment, à un moment, Julie Doucet, elle se lasse un peu de son format fanzine, peut-être, où elle cherche d'autres médiums. Elle part de New York, elle part vivre à Berlin.
Berlin, l'horreur. Aux puces, on dévore des oranges sur des épluchures d'albums photos.
Et peut-être parce qu'elle est en recherche de ci, de là, elle se promène et elle tombe dans une poubelle, pas loin du Tiergarten de Berlin. Elle tombe sur le contenu épars dans une poubelle d'un album photo, comme on tombe parfois au fond d'une brocante ou au fond d'un endroit.
Ce n'est plus cela du tout. Je meurs de froid la nuit dans mon lit. Je meurs exsangue. Elle, je dis que ce n'est rien. La fatigue. Melek ne dit rien. Melek ne dit jamais rien.
Elle trouve des photos qu'elle va ramener avec elle à Montréal. Et à partir d'un atelier de sérigraphie, de sa pratique de gravure, elle va commencer à inventer l'histoire de cette femme qu'elle a aperçue sur les photos.
Berlin est en fête. Cachée, Melek a pleuré. Ce n'était pas de joie. On brûle des généraux. Mon aîné m'apporte des fleurs, les invitations pleuvent.
Un visage vraisemblablement d'une personne turque, dont il y aura sur quelques cartes postales juste le prénom Melek. Et à partir de là, elle fait presque qui s'apparente à un exercice d'écriture, un peu comme l'Oulipo ou des jeux d'écriture sous contrainte.
Encore vu ce salaud sur Cosmonaut Strauss, celui de la photo. Un cousin, sans doute. Un cousin immobile qui attend.
À partir de quelques traces, on imagine la vie de la personne.
En plein vacarme des machines, elle me criait quelque chose. Je me suis époumonée avec mon accent. Ich fasse nicht! Elle a ri. J'ai su par après qu'il voulait la forcer à se couper les cheveux.
Et Benoît Chapuis, son acolyte à ce moment-là, qui est le fondateur de la maison d'édition, il va ensuite l'aider à rassembler des textes.
Réveil en sueur, Melek était creusée de l'intérieur par une racine noire. Elle formait des syllabes sans signification. Des hommes de chez elle la portaient en triomphe. Elle riait et je voyais le sang qui coulait le long de ses cuisses en torrent sur les hommes et la terre. Juste peur pour la petite.
On ne dira pas si ces textes figuraient avec les cartes postales ou pas, ce sera un mélange un petit peu.
Ces têtes de momie. Elle a dit ce n'était pas comme cela. Elle a parlé des odeurs, des courses dans la ruelle qui étaient partout et d'un coin de ciel par la fenêtre qu'on pouvait observer calmement. Le photographe qu'elle voulait croire innocent n'avait jamais parlé de momie. Mais voilà ce qu'il lui avait laissé. Des têtes sans souffle qui veulent tout étouffer.
Des amis à elle vont se prendre en photo dans des photomatons ou lui envoyer aussi. Ça va devenir des gravures, des montages. Et ça compose un peu l'essentiel de ce livre, qui est à partir d'une vie inventée de Melek, dont on saura à peine plus que ce qu'il y a dans les textes et sur les photos, qui raconte une saison glaciale à Berlin. Mais c'était presque déjà plus Berlin parce qu'elle était rentrée à Montréal.
Je le savais. Elle le savait. Ils sont tous morts. On nous couvrira de papier peint avec des fleurs. On rira. Ce sera un peu forcé.
Et c'est un livre qu'on souhaitait rééditer, qui fait partie un peu, compose un peu l'ADN presque de la maison d'édition, entre les images, les gravures et en même temps de la poésie. Et cet objet qui est un peu entre les frontières, disons, entre la BD, le livre d'art, le livre de poèmes, presque le roman, si on imagine des suites à la vie de Melek, ou la vie de ses enfants, ou ses oncles, quoi. Et donc c'était un peu un livre un peu proliférant, qu'on trouvait intéressant à faire exister aussi.
Il y a un mélange, hein, quand on feuillette le livre, il y a un mélange donc de gravures, ce que tu as expliqué, et également de photos réelles. Donc ces photos réelles, c'est des photos qui ont été envoyées ou des photos qu'elle a trouvées dans la poubelle?
Il y a volontairement le flou.
D'accord.
Il y a des photos envoyées par ses
amis. Alors on laisse
un peu le flou. Oui, oui. Et en fait, moi-même, j'avoue que je ne saurais pas exactement te dire qu'est-ce qu'il y a de vrai ou faux dedans.
Mais il y a quand même une photo de Berlin, par exemple, celle-ci.
Oui, celle-ci, c'est une vraie.
Celle-là, c'est une vraie.
Il n'y a pas de photos trafiquées par ordinateur ni par IA. C'est que du montage ou du découpage. Les photos de ses amis en photomaton, le mélange avec ça, je ne saurais même pas moi-même dire quelles sont les...
Mais c'est ça qui est assez extraordinaire, parce que moi non plus, en le regardant, j'étais incapable de dire, alors ça c'est trouvé dans la poubelle, ou ça c'est la famille turque ou pas, c'est qui, c'est les copains, etc. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'en fait, elle a construit le bouquin un peu comme on construit un docu.
Un petit peu.
D'une certaine manière.
D'une certaine manière, un peu, c'est exo-fiction. Elle fictionne à partir de ces images-là. Un exercice. Et ça l'a relancé un peu dans l'écriture, dans d'autres formes aussi qu'elle cherchait à ce moment-là.
Nevin. Viens, Nevin. Nous partons. Nevin. Viens, Nevin. Nous partons.
Dans le bouquin, il y a une fluidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une coupure entre les photos, réelles ou pas réelles, enfin je veux dire trouvées ou pas dans la poubelle, entre les dessins, les gravures, et puis entre les petits textes qui sont quelquefois très brefs et qui accompagnent, ou qui disons, je dirais pas qui accompagnent, je dirais qui rythment en fait les photos et les gravures.
La fierté, je me tiens droite mon père. Vous ne voyez pas le sang? La sève? La sueur? Il y a une tache qui grandit à travers mon visage. Le fruit intact éclate et sa pourriture se répand lugubrement. Mais je me tiens droite, mon père.
Et je trouve qu'en le lisant, chaque fois, il y a un côté un peu presque un peu inquiétant dans les personnages, des fois. Un côté, je sais pas, un peu fantomatique ou pas, mais quelque chose qui persiste, de relative étrangeté, presque d'une hantise ou quelque chose, on ne sait pas trop. Et en même temps, ça fait rire aussi, un petit côté humour noir un peu sur certaines photos aussi, ajouté avec les textes. Les pliures aussi de la photo qu'ils mettent, dans certaines photos. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez réussi dans cet effet qui provoque à la lecture. Et on peut y retourner, mais encore frappé par des images un peu étranges, fantomatiques, suspendues dans une vie qui a existé ou pas, on ne saura pas trop. Et je trouve ça assez beau. J'ai oublié de dire d'ailleurs que Julie Doucet et Benoît Chaput, dans les années 90, les années 90, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est les années où tout s'accélère, hein, c'est Internet et tout, le moment où ça va très vite. Après la chute du mur de Berlin, tout va très vite. Et les deux se font porteurs du mouvement lent. Contre toute accélération, contre toute l'idée d'aller trop vite, ils vont toujours promouvoir la lenteur. Le mail des éditions, c'est encore l'éditeur lent, @watcravant.com. Et on publie peu de livres par an. Longtemps, ça a été un travail lent, au sens où simplement, en soi, c'est un éloge de la lenteur qui veut simplement dire qu'on prend le temps de faire des beaux livres, de choisir la forme qui va... Chaque mise en page de livre change en fonction du texte. Il n'y a pas une mise en page qui est reprise à chaque fois. Et c'est une lenteur qui est plus cette façon un peu de prendre soin dans chaque fabrication de livre. Et évidemment aussi de ne pas trop courir après les chiffres ou la publication. On est toujours resté maximum à 8 livres par an. Et là, c'est vraiment les grosses années. Sinon, ça peut être 3 ou 4. Et il y a toujours eu cette idée un peu de faire des livres quand ça semblait nécessaire, quand les textes nous plaisaient vraiment, et d'arriver à garder ça. Et Julie Doucet et Benoît sont toujours gardés un peu ça. Ça reste un peu une blague, ils ne l'affirment pas non plus énormément. Mouvement lent, c'est évidemment une appellation, mais elle a fait à un moment beaucoup d'affiches, de collages. Et encore aujourd'hui, Julie Doucet a un super site qui promeut un peu ses publications, qui vont être des fois des BD publiés à l'association, dans d'autres, mais aussi des petits fanzines, tout simples. Longtemps, elle découpait des mots, des lettres prises dans les papiers journaux. Elle vient d'en faire un, là, alors je ne peux pas vous le montrer, évidemment, mais qui s'appelle « Hetero-Suicidal Tendency », qui sont juste des petites blagues humoristiques à partir de mots photomontage, de lettres découpées dans les journaux, ou de petits mots, et de petites phrases. Elle a gardé un peu ça. Qui ne sont pas toujours des livres qu'elle va éditer à beaucoup d'exemplaires, plus des fanzines destinées à circuler parmi les gens qui veulent la lire ou qui veulent l'apprécier. Mais il y a cette pratique qui continue.
J'appuyais ma bouche de vent où y'a ma langue dans l'embrouillant il a sa ma carcasse en chabat la blanc et blanc.
J'en profite, je voulais avoir ton avis, Paulin, sur les gravures. Tu connais bien les gravures, pour en avoir édité certaines.
Moi, je suis un amateur du travail de Julie Doucet. Alors, je n'ai pas une connaissance encyclopédique de son travail, puisqu'elle a vraiment un nombre de publications, on va dire, pléthoriques. Plein de formats, là, j'avais ce que tu montrais à Adrien à l'instant, là, ses poèmes en découpage. J'ai eu l'occasion d'avoir quelques fanzines aussi, c'est souvent très cruel, très drôle. Et Mélèque, c'est là où j'ai découvert son travail de gravure en vérité. J'ai été assez embarqué, enchanté par ce jeu entre la gravure et la photo. Et la gravure est une lecture supplémentaire de la vie de ces personnages. On a déjà une photo qui nous donne accès à un petit bout de leur histoire, réelle ou imaginée, presque peu importe. Mais je trouve que ça donne une entrée sur la façon dont elle conçoit, enfin, elle nous guide encore un peu plus sur ce que peuvent incarner ces personnes-là. Et le sentiment d'étrangeté dont tu parlais, Adrien, presque la hantise, le côté fantôme. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué en étant dans ce livre. Ne plus trop savoir où sont ces gens, qui ils sont. Et en même temps, on s'en sent très proche, je trouve, par cette gravure. Là, il y a vraiment une expressivité qui est assez frappante, en fait, quand on se plonge dedans. Et puis c'est aussi un livre, je veux dire, qui, encore une fois, là, quand Loi de Cravant, vous travaillez beaucoup la forme. Il y a des volets qui s'ouvrent dans ce livre. On est amené à le manipuler. Donc on est amené à passer... C'est un livre qui peut se lire très vite, mais en fait, par cette manipulation, on a tendance aussi à s'arrêter beaucoup sur les gravures. Et ça, je trouve que ça participe à nous plonger d'autant plus dans la vie de cette étrange famille.
Et à un moment donné, même, on joue même sur la calligraphie, la taille des caractères. C'est quoi? C'est pour réveiller le lecteur ou la lectrice?
Je pense que ça fait partie un peu du style de Gilles Doucet. Quand elle découpe des mots, on n'a souvent pas la même taille dans les journaux, comme on le constate tous si on lit encore un peu le journal. Il y a un jeu un peu comme ça, de marquer effectivement des choses. Et je pense qu'elle cherchait à ce moment-là. On a l'impression que c'est le livre qui nous parle. C'est plus gros, plus grand. Et il y a ce côté. Et dans le même moment, il y a encore un peu ce jeu aussi de miroir, avec d'un côté la gravure, de l'autre la photo. La gravure qui représente la photo ou la photo qui représente la gravure. Il y a ce jeu un peu entre les deux.
Oui, c'est ça, il y a le flou là qui,
le flou
qui est
de,
très
qu'est-ce
intéressant.
Qu'est-ce qui est à l'origine de quoi? Qui est pas mal pour casser un peu l'effet copier-coller ou simple illustration. Ça fait ce doute un petit peu. J'aime beaucoup la page aussi. Il y a une photo de Mélèque avec un bébé et de l'autre côté une gravure qui est inversée en miroir. Et c'est pas du tout la même sensation en regardant l'autre image. Donc il y avait ce jeu effectivement de... d'ambiguïté, d'ambivalence pour relancer un peu le plaisir de lecture et que ce soit pas simplement une suite de photographies.
Et il y a une chose aussi que j'aime bien, c'est quand elle fait des zooms, elle peut scander le texte, parce que là c'est un texte, disons, plus ouais. Classique, c'est pas une poésie, elle parle d'images sages. C'est là, elle scande ça, elle partage le texte avec ce petit zoom sur les mains, avec justement dans une bague et puis des fleurs.
C'est la démarche d'enquête. On ne saura pas exactement à quoi servent ces bagues, cette fleur, qui a volé quoi, qui a fait quoi. Mais je pense qu'il y a un petit jeu sur l'enquête.
C'est à nous aussi de nous poser des questions et puis d'apporter les réponses qu'on a envie d'apporter. Hein.
Et c'est un livre assez généreux parce que, alors si on ne pratique pas tous et toute la gravure, ce jeu, mais qui est classique encore une fois dans les jeux d'écriture, d'imaginer la vie d'une personne à partir de quelques traces, ça invite aussi à écrire. On a peut-être tous tout fait ce jeu dans le métro, de regarder une personne et d'imaginer sa vie ou dans la rue, à la terrasse d'un café ou quoi. C'est des livres assez généreux qui invitent aussi à pratiquer ce type de... laisser libre cours à son imagination.
Mélèque était... Je ne sais plus le mot. Istanbul, le marché aux oiseaux et le désert pour tout l'intérieur. Ma propre langue a quitté ma bouche et je ne sais plus nommer ce visage. Mélèque était une orange clouée de girofle à chef de noircir.
Dans la gravure, elle fait ressortir le caractère, disons, plus intime de la personne. C'est un peu la raison de la gravure, parce que ça va accentuer certains côtés du caractère, en tout cas.
On a l'impression d'accéder à la personne plus, ou alors une autre visage, une autre facette de cette
exact.
Personne.
Exact. Et elle, qui est en couverture.
Moi, je dirais que c'est Mélèque, en couverture. Elle est très belle sur la couverture.
Image sage, et quelque chose qui crie sous la surface muette. La poussière qui retombe et les moments qui ne seront jamais dénoués. La présence de vie qu'on ne saura plus rejoindre. À jamais fermé. Mais qui raconte pourtant une histoire bien connue, trop proche pour que l'on puisse croire à cette distance. Nous ne le savons que trop, face à ce qui transpire sous ce silence, il n'y a guère d'abri. Un certain hiver à Berlin, au Tiergarten, Julie Doucet trouva dans les poubelles le contenu épars d'un album photo.
Le livre, il est sorti quand ?
La première édition, si je ne m'abuse, date de 91 ou 92.
Et donc là, c'est une réédition ?
C'est une réédition.
Vous avez changé des choses ou pas ?
Non, rien n'a été changé en vérité. Mais le livre, la première fois, avait été imprimé en peu d'exemplaires, rapidement épuisé. On est souvent en sous-production pour les livres, pour différentes raisons, y compris celle de l'économie un peu, de l'imprimerie, et de ne pas pouvoir produire énormément à chaque fois.
Et après,
fois.
Les stocker ?
Les stocker, ouais, c'est pas le pire encore, c'est plutôt l'impression. Et là, récemment, on a décidé de le rééditer. Gilles Doucet a eu le prix de la BD à Angoulême en 2021. Et ça me semblait intéressant de ressortir ce livre. Ça faisait plaisir que ce livre soit encore en circulation, celui-ci. Mais c'était plus un retour, un coup de cœur, un anniversaire un peu de la publication. Il n'y avait pas d'événement particulier pour relancer cette publication.
Alors, en ce qui concerne Loi de Cravant, qu'est-ce qu'il y a comme... Alors, tu nous as parlé de l'autre livre. Il est tout récent, celui-ci aussi.
L'autre livre de Gilles Doucet, mais ce sera un fanzine qui restera... Elle écrit là en ce moment en anglais. C'est des lettres découpées en anglais. La traduction serait tout un travail pour arriver à il faudrait refaire les mêmes blagues en français, trouver les mêmes lettres de journaux. En vérité, ce serait pas mal de travail, j'ai l'impression. Mais on continue à sortir beaucoup de poésie. On a plusieurs livres là, qui sont sortis récemment, qui viennent surtout du Québec, mais on publie aussi des auteurs, autrices français, françaises, selon les occasions. Et on publie environ 5-6 livres par an. En France, on a la chance d'être distribué par Belles Lettres, Diffusion Distribution, donc on est dans la plupart des très bonnes librairies en France. Sur le site loidecravant.com, vous verrez tous nos titres. Certains sont encore seulement distribués au Québec et sortent peu après en France. Mais globalement, vous pouvez presque tous les trouver. Et il est lentement mis à jour.
Et la toute dernière parution en France, c'est quoi ?
Récemment, c'est Le Tank, qui est un petit recueil d'aphorismes. C'est un chouette livre parce qu'on avait sorti Petit morceau de jeune homme, un recueil d'aphorismes qui critiquait la figure du jeune homme, qui attaquait une forme de masculinité toxique. C'était sorti il y a quelques années par un collectif féministe anonyme appelé Les Valéries. Et ça a inspiré un autre collectif féministe, tout aussi anonyme, qui s'appelle Nos Forteresses, et qui a écrit, pour rebondir sur les petits morceaux de jeune homme, Le Tank, qui cette fois est une autre figure qui prolonge un petit peu la critique du jeune homme, dans une autre version, celui qui fait son tank, celui qui fait son bulldozer, qui arrive et qui détruit un peu toute possibilité de composition collective. Et elles explorent par des petits aphorismes poétiques, des petites réflexions, les dynamiques de groupe, et les enjeux des fois de... quand les garçons font leur jeune homme à l'intérieur, ce que ça produit comme vie du groupe. C'est un petit recueil entre poésie et réflexion théorico-politique.
Oui, à mon avis, c'est quand même, ça colle à l'actualité. Hein.
Voilà, et qui est très très beau, tout petit. Et
celui-ci, on peut le trouver en France ?
On peut le trouver en France depuis le 7 mai.
Bon, j'aimerais quand même que tu choisisses un des textes et que tu me le lises.
De Mélec. En plein vacarme des machines, elle me criait quelque chose.
En plein vacarme des machines.
Je me suis époumonée avec mon accent.
Elle me criait quelque chose.
Ich verstehe
nicht. Je me suis époumonée avec mon accent.
Elle a ri.
Ich verstehe nicht.
J'ai su par après qu'il voulait la forcer à se couper les cheveux.
J'ai su par après qu'il voulait la forcer à se couper les cheveux.
Mélec, photo trouvée et gravure de Julie Doucet, texte rassemblé par Benoît Chaput, édité par Loi de Cravant en 2025.
Mélec, photo trouvée et gravure de Julie Doucet. Texte rassemblé par Benoît Chaput.
Amour des cieux,
D28, ça sera, nous parlerons avec Mathieu Rigousse de la guerre globale contre les peuples, mécanique impériale de l'ordre sécuritaire de Mathieu Rigousse, et avec Mathieu Rigousse, c'est publié à La Fabrique. Et nous parlerons également de trois films, Bing Bo Widerberg, et puis c'est un film de Mathias Lorborg et John Asp, et puis Les Amants astronautes de Marco Berger, et L'attachement de Karine Tardieu. Très très bonne semaine, et surtout évidemment comme d'habitude, tenez bon.